Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 30 mai. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine et on parlera de gastronomie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Le Victoria a signalé 5 nouveaux cas de coronavirus et passe à donc 49 avec 5 nouveaux cas signalés depuis hier. Le Premier ministre Scott Morrison laisse derrière lui la controverse sur le virus pour aller en Nouvelle-Zélande pour des pourparlers avec Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise. Chelsea victorieux de la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, score 1-0. Le Victoria signale 5 nouveaux cas de coronavirus alors qu'il en ressort qu'un travailleur dans une maison de retraite pour les personnes âgées a testé positif au virus. Arker Maidstone, dans l'ouest de Melbourne, a déclaré qu'un travailleur qui avait reçu sa première dose de vaccin avait testé positif et que l'établissement était verrouillé. Les 5 nouveaux cas communautaires annoncés ce dimanche proviennent de plus de 45 000 tests et portent à 49 le nombre d'infections actives dans l'État du Victoria. Le commandant des tests de COVID-19, Jerome Waymar, a déclaré que toutes les précautions avaient été mises en place et que la maison de retraite pour les personnes âgées était restée fermée.
I can confirm that this facility has been on the Commonwealth program for vaccination. Over half of the residents have been vaccinated. We believe about a third of the staff have been vaccinated. This individual positive case member has had one vaccination, has had her first vaccination dose.
Le chef du Victoria par intérim, James Merlino, a annoncé une enveloppe financière de 250 millions de dollars pour aider les petites et moyennes entreprises de l'État touchées par le lockdown. Et plus de 76 000 entreprises et 11 000 sites seront éligibles à cette aide financière. Mais il a clairement indiqué que le gouvernement fédéral ne donne aucun soutien.
At the same time, though, Victorian workers need support, and that's where we needed Canberra to come to the table. And I'm very sorry to say that they have refused to do that. We asked multiple times. We asked multiple times of the federal government to support workers during this period, and the unrelenting answer has been no. Victorian workers deserve more from the federal government, and I am beyond disappointed that the answer from the Prime Minister and from the Treasurer has been no.
Le Premier ministre Scott Morrison s'envole aujourd'hui pour la Nouvelle-Zélande pour les entretiens avec son homologue Jacinda Ardern. Il assistera à la réunion des dirigeants australo-néo-zélandais à Queenstown et des pourparlers officiels commenceront demain lundi. Il quitte l'Australie au milieu d'une crise avec des critiques sur l'échec de la quarantaine dans les hôtels à contenir le coronavirus et le rythme du déploiement du vaccin. Jusqu'à présent, seuls 2% de la population australienne a été vaccinée, alors qu'aux États-Unis, ce chiffre est de 50%. Le Premier ministre par intérim, Michael McCormack, a déclaré sur Sky News que ce n'était pas un jeu de blâme.
Well, Adam Bant made this point in Question Time the other day and made the point about America. Well, Adam Bant, if he thinks America's so great, he should go and live there. We'd all be better off. Situation is, I'd know where I'd rather live, and that's right here in Australia, where, yes, we've had 910 deaths, and that's been very sad for their families. And we've been on top of this virus. We've put out, so much economic support, but most importantly, we've had those health outcomes like no other country.
Le chef de l'opposition fédérale, Anthony Albanese, déclare que le gouvernement devrait faire davantage pour éduquer le public sur la façon de se faire vacciner et donner des statistiques sur le nombre de personnes qui ont eu leur première et deuxième dose de vaccination.
It is really concerning that today there's suggestions that one of the people in Victoria who have tested positive may have been an aged care worker. We have been saying for some time that essential workers, including those in aged care, need to be priorities when it comes to being vaccinated.
Les infections au coronavirus chutent à travers l'Europe, tandis qu'au Vietnam, une nouvelle variante du coronavirus a été découverte. L'Europe a connu la plus forte baisse de nouvelles infections et de décès au Covid-19 la semaine dernière par rapport à toute autre région, tout en signalant qu'environ 44% des adultes avaient reçu au moins une dose de vaccin. À mesure que les taux de vaccination s'accélèrent à travers l'Europe, les projets de vacances d'été à travers le continent augmente également. Les navires de croisière internationaux seront à nouveau autorisés à accoster dans les ports espagnols à partir du 7 juin prochain, mais les navires devront répondre à des exigences sanitaires strictes. À Bruxelles, cependant, le mouvement anti-Covid, anti-port du masque, non au vaccin, se fait entendre dans les rues. Reportage de Lax Milota pour Radio France Internationale.
Pas de dictature, retour à la liberté, scandent les manifestants. Livia a fait le déplacement depuis Berlin. Elle s'inquiète pour l'avenir de ses trois enfants.
It's a risk for slavery.
Les mesures sanitaires sont une forme d'esclavagisme. Je pense aussi que le vaccin est risqué. Peut-être pas maintenant, quand ils l'injectent, mais plus tard, en automne. Qui sait quels seront les effets ?
Des manifestants qui veulent exprimer leurs doutes concernant les vaccins contre le Covid-19, mais aussi par rapport au passeport sanitaire européen qui sera exigé pour voyager.
J'arrive pas à comprendre, moi, pourquoi on doit avoir un passeport sanitaire pour voyager.
Dans la foule, certains remettent en question la gravité de la crise sanitaire.
Quelle pandémie ? Parce que s'il y avait vraiment une pandémie, la population mondiale n'aurait pas augmenté de 5%. Il faut savoir que dans les chiffres, ils ont été bien trafiqués.
Valérie faisait partie des Gilets jaunes. Elle regrette aujourd'hui de ne pas pouvoir critiquer les décisions des autorités. La manifestation n'a pas été autorisée.
Quand on essaye de se rebeller un peu, ben on est tout de suite complotiste.
Autre signe de leur protestation, aucun de ces militants ne porte de masque alors qu'il est obligatoire à l'extérieur dans la capitale.
L'Inde signale sa plus faible augmentation quotidienne de cas de Covid-19 en 45 jours. Il y a plus de 173 000 nouvelles infections et le nombre de morts a augmenté de plus de 3 500 personnes. Le nombre total d'infections du pays s'élève désormais à 27,7 millions de personnes avec un nombre de morts de plus de 322 000 personnes. Le président français a quitté l'Afrique du Sud après une mini-tournée du continent. Et il a rendu hommage à Madiba, à la fondation Nelson Mandela, où il a parlé de lutte contre le coronavirus.
Tant que nous n'avons pas vacciné partout, nous sommes exposés à un risque. Parce que ça veut dire que l'épidémie peut continuer à se propager chez les plus pauvres, que des mutants peuvent arriver et ensuite revenir. Et donc c'est notre intérêt, bien compris. Et donc moi je veux tenir cet objectif en Afrique d'atteindre les 40% de vaccinés d'ici la fin de l'année et de tenir avec l'Afrique le 60% mi-2022. Il est atteignable si on accélère les dons de doses, si on accélère les transferts de technologies pour produire en Afrique, ce qu'on a décidé hier, et c'est ce qu'on a fait avec l'Allemagne, avec les États-Unis d'Amérique. Donc cette équipe-là qu'on veut former, c'est comment produire plus en Afrique pour atteindre cet objectif. Dons de doses, accroître la production en Afrique, et lever toutes les contraintes face à cela et être plus exigeant pour avoir le bon prix et l'accélération.
En République démocratique du Congo, des milliers de personnes évacuées se sont empilées sur des bateaux pour tenter d'évacuer la ville congolaise de Goma. Ils craignent qu'une autre éruption du mont Nyiragongo ne se produise à tout moment. Ce résident déclare que les gens écoutent le message du gouverneur de la province du Nord-Kivu pour partir.
Bon, watu wanakimbia volcan, selon message ya waliwali.
They are fleeing. They cannot stay. We are afraid and we think it could impact you wherever you are. It could set off the gases in Lake Kivu and explode. That's why we are fleeing. We want to ask the Congolese government to see how they can come help the displaced. They need help because these times are hard.
Et pour les dernières nouvelles, voici le reportage de Laure Broulard pour RFI.
Entre les champs de choux et les roches volcaniques, le HCR dresse des tentes pour les déplacés qui n'ont pas souhaité rentrer à Goma. C'est le cas de Damien et de toute sa famille.
Il y a beaucoup qui ont préféré rentrer à Goma, peut-être c'est par sentiment. Sinon, en principe, le danger n'est pas écarté. Et pour qu'on quitte ici, il faut qu'on ait une garantie que le danger est écarté.
Le camp de Boussa-Samana a ouvert au nord de Rubavu en début de semaine pour accueillir ceux qui ont fui directement après les coulées de lave du 22 mai, comme Bayahure.
On était en train de préparer à manger et là nous avons vu une fumée qui montait du volcan. Certains pensaient que c'était juste des feux de bois, donc on a continué à regarder. Et on a vu des choses qui sortaient du volcan. Alors on a couru jusqu'au Rwanda et les laves couraient derrière nous.
Pas de retour en vue non plus pour Joseph.
On nous a dit par téléphone que notre maison avait brûlé. Ici au Rwanda, nous sommes venus sans rien, donc on va avoir besoin d'aide pour reconstruire notre maison. On n'a même plus de casserole, on n'a pas de matériel, on a besoin d'aide sur tout.
Selon le HCR, le camp de Boussa-Samana accueillait environ 2000 déplacés hier.
La chef de l'opposition biélorusse appelle à des manifestations mondiales contre la détention d'un journaliste de l'opposition. La chef de l'opposition en exil, Svetlana Tikhanovskaya, est l'épouse du journaliste Roman Protasevich, l'homme dont l'arrestation a déclenché la crise. Elle appelle à des manifestations mondiales en solidarité avec le peuple de la Biélorussie. Un autre politicien de l'opposition en exil, Andrei Sannikov, a déclaré que les manifestations en Biélorussie augmenteraient.
Despite the dangers, which are very real, and despite the fear, people are still protesting. The scale of protest is less than we saw last year, but it is going on everyday basis. And I'm anticipating the scale of protest also to grow.
Et maintenant, ce reportage de Sarah Bakaloglu sur place pour Radio France Internationale.
Dans la foule, Iran, biélorusse de 20 ans, tient fermement un drapeau sur ses épaules. Toute sa famille vit encore en Biélorussie, une source de grande préoccupation pour la jeune femme.
J'ai vraiment peur pour eux, car maintenant, c'est très difficile de quitter la Biélorussie. J'ai envie de crier aussi fort que je peux. C'est effrayant de vivre là-bas. Vous pouvez aller en prison à cause d'une photo avec ce drapeau rouge et blanc. Vous pouvez être tué ou être privé de liberté. Pour moi, c'est insensé que ce genre de choses se passe en Europe.
Dans les rangs, une pétition circule pour demander à l'Union européenne de prendre des sanctions économiques, notamment contre les entreprises liées au dirigeant Loukachenko. Pour Guénèque, arrivé ici en octobre, le soutien de la communauté internationale est essentiel.
Jusqu'à aujourd'hui, la réaction de la communauté internationale se limitait à des paroles. Et aujourd'hui, ce sont des actions. C'est très bien que l'Union européenne réagisse ainsi. Car sans l'aide de l'extérieur, peut-être que le régime tomberait, mais le coût serait énorme pour la population biélorusse. Avec de l'aide, le régime tombera avant.
Pour le jeune homme, il faut reconnaître officiellement le régime de Loukachenko comme étant un régime terroriste afin de l'isoler davantage.
Le président colombien envoie l'armée pour réprimer les manifestations qui ont fait des dizaines de morts au cours du mois dernier. La colère est suscitée par une proposition de réforme fiscale et s'est propagée pour inclure la frustration économique, la montée des inégalités, la rareté des vaccins Covid-19 et la violence policière. Le président Ivan Duque a promis d'utiliser tous les pouvoirs prévus par la Constitution et la loi pour mettre fin au vandalisme et aux troubles.
Islas de anarquía.
Islands of anarchy do not have a place in our country. There should always be sensitivity to understand the citizens' clamor, interpret it, and tend to it, but never with violence in the middle, never assaulting citizens.
Nunca atentando contra los ciudadanos.
des tonnes de plastique en provenance d'un porte-conteneur en feu, le MV Express Pearl, immatriculé à Singapour, menace les plages du Sri Lanka de la pire pollution de leur histoire. Précision de Marie Normand pour RFI.
C'est une marée grise qui s'abat en ce moment sur les plages de la côte ouest du Sri Lanka. Des millions de granulés plastiques, du polyéthylène, s'échappent des 8 conteneurs tombés à l'eau au large de la capitale, Colombo. La marine tente de nettoyer ces plages touristiques depuis plusieurs jours à l'aide de pelleteuses. Des hommes en combinaison blanche pataugent dans une couche de plastique qui atteint par endroits 60 cm de haut. C'est un travail de titan car ces granulés mélangés à du pétrole brûlé s'échouent de façon continue. Au-delà de la pollution des plages, les responsables environnementaux craignent que la décomposition de ces microplastiques ait des conséquences durables pour la flore et la faune sous-marine dans cette région où les eaux sont peu profondes. Les autorités ont interdit la pêche dans une zone de 80 km de long autour du porte-conteneur en feu. Une marée noire n'est toujours pas exclue. En plus du combustible présent dans son réservoir, le navire transporte 278 tonnes de fioul lourd et 50 tonnes de gasoil destiné au transport maritime.
Et on passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth. Il fera 19 degrés, Adélaïde 18, Melbourne 14, Hobart 13, Canberra 14, Sydney 18, Brisbane 22, Cairns 26, Darwin 31 et à Alice Springs, maximale de 21 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 30 mai. Le cluster de COVID-19 dans le Victoria passe à 49 personnes avec 5 nouveaux cas signalés depuis hier. Le Premier ministre Scott Morrison laisse derrière lui la controverse sur le virus pour se rendre en Nouvelle-Zélande pour des pourparlers avec Jacinda Ardern, la Première ministre néo-zélandaise. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot, la finale de la Ligue des Champions hier avec la victoire de Chelsea qui a battu Manchester City 1-0. Martin Guez pour Radio France Internationale.
Il est petit, il est gentil, il a mangé Manchester City. 1m68 de détermination et d'autorité. Général Kanté a encore été tentaculaire en finale de Ligue des Champions. Récupérateur, relayeur, meneur, le numéro 7 des Blues était partout dans la surface de City pour fixer et distribuer à ses attaquants. Aux abords de la sienne, auteur d'un tacle magnifique sur Kevin De Bruyne pour déposséder le capitaine mancunien du ballon. N'Golo Kanté, proche de marquer aussi, lui qui a pris le meilleur de la tête sur les pourtant géants défenseurs centraux de City. Déjà élu homme du match en demi-finale aller, puis en demi-finale retour face au Real Madrid. Le champion du monde français de 30 ans est encore reparti avec des trophées plein les bras. La Ligue des Champions, évidemment, mais aussi celui de meilleur joueur de la finale. Homme de base du système Tourelle, ce petit homme modeste n'aime pas tirer la couverture à lui, mais a pris toute la lumière durant cette Coupe d'Europe, au point de s'imposer comme un candidat sérieux pour le prochain Ballon d'Or. Cela passera par un grand euro avec l'équipe de France. Mais Didier Deschamps, le sélectionneur, ne peut que se frotter les mains de compter dans ses rangs ce joueur multiple.
Et puis Al Ahly remporte la Super Coupe d'Afrique contre les Marocains de Berkane 2-0. Un match disputé à Doha, au Qatar. Écoutez Pitso Motsi Mané, le sélectionneur du club égyptien.
Al Ahly, c'est une grande équipe, il y a beaucoup d'attentes autour de ce club. Et quoi que vous gagniez, on vous en demande encore plus. On a remporté le championnat national l'an dernier, puis on nous a demandé de gagner une 9e Ligue des Champions, ce qu'on a fait. Ensuite, on attendait de nous à ce qu'on remporte cette Super Coupe d'Afrique. Ça, c'est fait. Et maintenant, on nous réclame un 10e titre en Ligue des Champions, et c'est ce qu'on vise, mais vraiment, ça ne s'arrête jamais.
On passe au tennis avec le coup d'envoi de Roland-Garros ce dimanche. Les précisions de Thomas de Saint-Léger en compagnie d'Éric Mamrut pour RFI.
En vedette, on le disait, l'ogre de l'ocre, Rafael Nadal, l'Espagnol de bientôt 35 ans, en lice pour un 14e trophée parisien.
Oui, depuis 2005, c'est un règne quasiment sans partage de Rafael Nadal sur la terre battue de Roland-Garros. 13 titres décrochés sur 16 possibles. Seul Robin Söderling en 2009 et Novak Djokovic en 2015 ont réussi à battre l'ogre majorquin à Paris. En 2016, c'est d'une blessure au poignet qu'il avait mise hors course. Et cette année encore, telle une litanie sans fin, la Coupe des Mousquetaires lui était encore promise car Rafael Nadal est en forme, comme en témoignent ses titres décrochés récemment à Barcelone et à Rome, c'était face à Novak Djokovic en finale. Alors certes, l'Espagnol a dû sauver des balles de match au passage et même subi deux défaites sur terre battue cette saison face à Andrei Rublev à Monte Carlo et contre Alexander Zverev à Madrid. Mais qu'importe, pour Joe Wilfried Tsonga, le favori reste encore et toujours Rafa Nadal.
Bon, aujourd'hui, il n'y a personne grand doute que c'est l'inévitable favori. Hein. Même ceux qui pensent qu'ils sont capables de le battre aujourd'hui, ils pensent que c'est lui le favori. Il n'y a pas de doute, il a gagné 13 fois en 15 ans. C'est juste hors norme. Donc aujourd'hui, s'il y a bien un favori, c'est Rafael Nadal. Et puis je crois que bah, les deux, que ce soit Novak ou Rafael, sur le tournoi de Rome, ont quand même un peu remis l'église au milieu du village et montré qu'il y avait encore un peu de marge et qu'ils étaient encore, malgré tout, les favoris, je pense, pour les grands chelems.
Rafael Nadal, à qui la Fédération française de tennis, avant même la fin de sa carrière, a dressé une statue. Elle est dans le stade, elle mesure 3 mètres de hauteur et est fabriquée en acier, inoxydable forcément.
Hier, la finale de Belgrade a été remportée par Djokovic, le fils du seul, contre Molkan, le Slovaque, en deux manches. La finale de Parme a été remportée par Korda, l'Américain, contre Cecchinato, l'Italien, en deux manches, 6-2, 6-4. Et à Strasbourg, la finale des Dames, remportée par Krejcikova, la Slovaque, contre Sirstea, la Roumaine, 6-3, 6-3. Et on passe à ce reportage de Sarah Loubacouche et Hugo Moissonnier de RFI qui nous parle de l'impact des matchs à huis clos, des restrictions sanitaires et de ces joueurs qui perdent leur goût des surfaces. On parle toujours de tennis.
On peut le dire, hein, des matchs dans des stades vidés de public, c'est déstabilisant, c'est rageant, voire déprimant. Benoît Paire l'a fait remarquer plus d'une fois. Hein. En mars, le Français est éliminé au premier tour du Masters Mills de Monte Carlo. Il profite de la conférence de presse d'après-match pour exprimer le mal-être qu'il ressent dans un contexte sanitaire qui pèse sur son niveau de motivation. Jouer au tennis devant des sièges vides, bah, ça n'a pas beaucoup de sens pour lui, à tel point qu'il dit se désintéresser totalement du résultat de son match.
Franchement, j'en ai rien à branler, franchement, de ce match. Je veux dire, vraiment, ça me passe, mais à des années-lumière, quoi. Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. Donc. Mais quel plaisir il y a à jouer. Alors oui, pour les ramords du tennis, c'est sûr que c'est génial de venir jouer ici. C'est comme s'ils s'entraînaient, donc parfait. Mais enfin, se retrouver ici, c'est une tristesse absolue, alors que d'habitude, c'est le meilleur tournoi du monde. Tous les joueurs le disent. Après, moi, je suis peut-être le seul à parler, mais c'est comme ça. Le circuit est devenu pourri, mais...
Le franc-parler de Benoît Paire, on ne peut pas lui enlever ça. Et ce franc-parler, il a heurté au-delà des courses, Ralou.
Ouais, mais pour les professionnels de la discipline, ce manque de motivation se comprend parfaitement dans un sport individuel fortement contrarié par la pandémie. Julien Varlet est consultant tennis pour Canal+, ancien joueur pro. Maintenant, il est formateur et il trouve de très bonnes raisons à la colère que ressentent certains joueurs.
Autant en sport d'équipe, hein, vous avez quand même les potes avec lesquels vous pouvez voilà créer une émulation, vous tirer vers le haut et voilà. Alors que le tennis, effectivement, bah, quand t'es tout seul. Tu peux avoir un peu ton staff, mais les staffs aussi ont été un peu restreints. Et puis sous le fait effectivement de ces vides dans les stades, je pense que c'est ça qui a un peu plombé les joueurs. Faut pas oublier aussi qu'en plus le tennis, tu voyages énormément. Faire un test avant de partir, un test quand vous êtes sur place, vous passez votre premier tour, vous refaisiez un test. C'est compréhensible. Après, il y a des joueurs qui ont joué le jeu. Quand on regarde comme ça, ça fait un peu enfant gâte. Et ça, je peux pas vous dire le contraire, quoi.
L'image de Flora, elle est une fan absolue de Nadal depuis quasiment toujours. Elle suit le tennis depuis qu'elle est toute petite et la jeune fille, elle ne cautionne absolument pas le comportement de Benoît Paire, par exemple.
Son comportement est totalement inacceptable sur les cours. C'est un manque de respect aussi bien pour ses adversaires que pour ses fans, que pour lui-même, en fait. Il y en a certains qui viennent même en compétition à reculons. Voir que certains grands joueurs sont capables de complètement rater leur saison sur terre parce qu'il manque un peu d'entrain, c'est un petit peu dommage. Heureusement, il nous reste des joueurs qui sont contents de venir en compétition, comme Djokovic, comme Nadal. Je pense que ça annonce une très belle compétition à Roland-Garros. On a hâte que tout rentre dans l'ordre.
Et puis le Giro d'Italia, l'avant-dernière étape hier, remportée par l'Italien Damiano Caruso et Egan Bernal. Le Colombien va vers le titre sur ce Giro de 2021, sauf accident ce dimanche. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur l'un des événements marquants de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur le concours de l'Eurovision qui s'est déroulé le week-end dernier et la chanteuse française Barbara Pravi.
Oui, elle n'a pas gagné, Barbara Pravi, mais elle n'en a pas été loin. Deuxième de ce concours, de cette finale du concours de l'Eurovision, elle a recueilli 499 points contre 524 pour le groupe italien Maneskin. Alors, l'an passé, le concours avait dû être annulé hein, pour cause de pandémie Covid-19. Le grand show télévisé était de retour cette année. La soirée a été diffusée simultanément dans 45 pays. En direct de Rotterdam, aux Pays-Bas, où en tout 3500 personnes, spectateurs, ont été autorisées à assister aux répétitions des artistes, aux demi-finales et à la grande finale le samedi 22 mai. Barbara Pravi donc a été tout près d'offrir à la France la victoire, ce succès à l'Eurovision, concours de chansons après lequel la France court depuis 1977. Le dernier succès, c'est le titre « L'oiseau et l'enfant » interprété en 77 à ce concours par Marie Myriam. Samedi dernier, à l'issue des votes du jury professionnel, Barbara Pravi et sa chanson « Voilà » était en deuxième position derrière l'interprète suisse. Ensuite, il a fallu ajouter le vote des téléspectateurs. Et là, ce sont donc les Italiens et leur groupe Maneskin, composé de quatre musiciens, une fille et trois garçons, qui ont coiffé tout le monde. Il n'empêche, Barbara Pravi a marqué les esprits à Rotterdam. Certaines années, sans parler de flop, personne ne retient vraiment qui a représenté la France. Mais là, dans cette finale qui réunissait 26 chanteurs finalistes, Barbara Pravi a séduit, elle, que l'on compare, mais oui, à Edith Piaf.
Qui est-elle, Barbara Pravi? Quel est son parcours?
Bien, déjà pour en arriver là, pour avoir la chance de représenter la France à ce concours de l'Eurovision, organisé par l'Union européenne des radios-télévisions, ce concours qui existe depuis 1956, un concours de chansons dans la lignée de la construction européenne, cette idée de fraternité, cette volonté de rassembler les peuples européens. Barbara Pravi, qui est âgée de 28 ans, a déjà remporté fin janvier le concours Eurovision France. Elle a été choisie dans une soirée qui mettait aux prises différents artistes français avec ce titre « Voilà », ce refrain chantant où elle répète « Voilà, 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 voilà qui je suis ». Un style rétro, oui, qui renvoie à Edith Piaf fin janvier. Le compositeur André Manoukian, qui faisait partie du jury pour ce concours à l'échelle de la France, avait déclaré « Elle ramasse la flèche laissée par Edith Piaf ou Barbara et l'envoie encore plus loin. Samedi dernier, à Rotterdam, elle n'a pas gagné, mais Emmanuel Macron, le président français, l'a félicité après sa deuxième place. Un tweet envoyé par le chef de l'État où il disait un grand bravo et merci à Barbara Pravi de réaliser ce rêve fou d'une jeune fille aux yeux noirs de faire briller la France à l'Eurovision. Barbara Pravi est née en 1993 à Paris. Elle a des origines serbes et iraniennes. Elle concède avoir grandi dans les milieux d'artistes, livres, musique, peinture, une formation multiculturelle. Elle a cette particularité rare d'écrire ses propres textes. Ce n'est pas une simple Lolita qui chante les textes écrits par d'autres. Non, elle écrit ses propres propres chansons. Elle écrit également pour d'autres artistes, Florent Pagny, Yannick Noah, Louane, etc. Ses chansons sont très présentes aussi sur les réseaux sociaux. Ses titres sont souvent autobiographiques. Elle ne s'en cache pas. En tout cas, il renvoie une partie de sa vie, comme son premier single sorti en 2017, Pas grandir.
Barbara Pravi, qui est une artiste, une chanteuse très engagée.
Oui, elle a pris l'habitude de sortir ses nouvelles chansons les 8 mars. 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Cette année 2021, ce sont 6 titres qu'elle a sortis le 8 mars. 6 chansons, un EP, comme on dit, Extend in Play, de 6 prières. Des prières, explique-t-elle, pour les autres, pour soi, pour tout ce qui nous entoure et même ceux qu'on ne voit pas. En 2019, Barbara Pravi signait avec Note pour plus tard un texte et un clip s'adressant là aux adolescentes où elle évoquait les violences conjugales, les souvenirs des coups qu'on prend pour des caresses. Barbara Pravi se fait entendre, elle défend l'avortement, elle dénonce les violences conjugales, elle trace sa route. Barbara Pravi est entrée dans tous les foyers européens avec l'Eurovision. On attend avec impatience son premier véritable album, hein, après les singles, après les recueils de quelques chansons. Cet album qui devrait sortir très prochainement, il est annoncé pour cet été.
Merci Émile pour ce portrait et on va écouter pour terminer bien sûr la chanson « Voilà » que Barbara Pravi a interprétée au concours de l'Eurovision.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou.
minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. On va parler maintenant de gastronomie. Le bistrot Guillaume fête ses 10 ans. En ce moment, Guillaume Brahimi est aussi sur SBS pendant le Tour de France de 2021 pour nous faire découvrir la gastronomie française. Il est avec notre collègue Grégory Pless.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur notre antenne le restaurateur Guillaume Brahimi. Guillaume, bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors Guillaume, cette année, elle est un peu particulière pour vous puisque on fête les 10 ans de l'ouverture de votre restaurant qui est un bistrot à la parisienne à Melbourne.
Voilà, c'est ça Grégory. Ça fait 10 ans qu'on a ouvert Bistrot Guillaume dans Crown Resort au bord de la Yarra à Melbourne et voilà, c'est 10 ans, c'est beaucoup de services, c'est beaucoup de tartes au citron, de steak frites et voilà, beaucoup de bons souvenirs et c'est extraordinaire pour un restaurant, 10 ans, c'est et comme on dit en anglais, it's a good inning.
Alors, on sait effectivement que, enfin, oui, la restauration, c'est compliqué. Il y a beaucoup de restaurants aussi bien intentionnés et aussi beau soit le concept de ces initiateurs qui coulent, malheureusement, parce que c'est un créneau très concurrentiel et très difficile. Donc, félicitations d'être toujours là 10 ans après.
Merci.
Je crois que, il y a 10 ans, quand vous avez ouvert votre bistrot, un bistrot comme ça, façon parisienne, sans les serveurs mal aimables, c'était un peu le premier sur Melbourne.
Ouais, on devait être un des premiers. On voulait vraiment créer, puisque moi je réside à Sydney, je voulais créer the home away from home, c'est-à-dire ma maison quand je suis à l'extérieur et je voulais faire mes plats préférés, les plats français préférés. Et donc, on s'est régalé à faire le menu parce que c'est vraiment tous les plats que j'adore.
Et du coup, est-ce que vous avez l'impression qu'en plantant cette graine parisienne, vous avez fait pousser d'autres restaurants, d'autres établissements qui surfent un peu sur la même vague?
Ouais, enfin, je suis pas sûr que, sans arrogance, mais on a eu beaucoup de jeunes qui sont passés chez nous et qui ont maintenant leurs propres affaires. on est fier du produit que l'on sert et on est, la cuisine française, c'est le cornerstone de tellement, c'est de la cuisine quoi. Nous, ce qu'on essaie de faire, on n'invente pas grand chose, on essaie de émouler les classiques, c'est-à-dire on essaie toujours de faire le plus beau poulet rôti de Melbourne, on essaie de faire la meilleure béarnaise, la meilleure crème anglaise. On fait les classiques et on a énormément de chance parce que nous faisons les plats français, les plats classiques français avec les superbes produits locaux du Victoria.
Alors, on disait tout à l'heure, le business de la restauration, c'est compliqué. Même avec les meilleures intentions du monde et le meilleur cuisinier du monde, c'est pas toujours évident de s'en sortir. L'an dernier, ça a été une période terrible pour l'ensemble du secteur. Les établissements ont été contraints de fermer pendant des mois et des mois, plus longtemps encore d'ailleurs à Melbourne que par exemple où je me trouve à Sydney. Pour vous, ça s'est passé comment ? Je vous pose la question parce que, évidemment, on sait tous qu'il y a plein de restaurateurs qui se sont reconvertis dans la vente à emporter, notamment pour continuer à avoir un petit peu d'activité, continuer à travailler. Et j'avais discuté avec un certain nombre de restaurateurs français l'année dernière quand on était encore en plein dedans. Et plusieurs me disaient... pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que, voilà, quand vous faites de la cuisine italienne ou asiatique, quelque part, c'est déjà inscrit dans leur mode de fonctionnement qu'on fait de la vente à emporter. Quand on fait de la cuisine française, un peu plus qualitative, sans paraître excessivement arrogant, ça se prête moins bien à la vente à emporter. Et du coup, beaucoup vraiment tirer la langue parce que le plan B qu'avaient trouvé la plupart des autres restaurateurs... Les restaurateurs français, eux, ne pouvaient pas l'appliquer. Du coup, pour vous, ça s'est passé comment ?
Oh, ça, je suis pas... Enfin, faut se réinventer, hein, faut trouver un moyen. Nous, ce qui était très important, c'est de trouver un moyen de garder notre équipe. Donc, s'il fallait faire des lasagnes, on aurait fait des lasagnes. Hein. C'est quatre forces majeures, là. On a fait des soupes à l'oignon à emporter, on a fait des poulets rôtis à emporter... ce qui était très important pour nous, c'est de pouvoir garder notre équipe. Donc, on s'est réinventé. C'est ce qu'il faut faire en temps de crise.
Bon, et maintenant,
sinon,
ça y est, c'est...
Sinon, on coule.
Ouais. Et donc, cette période est derrière vous. Vous êtes reparti de plus belle et tout va bien désormais.
Tout doucement, ça recommence. Et puis, vous savez, c'est simple ce que nous faisons. Hein. On rend les gens heureux. Hein. C'est ce qu'on essaye de faire. Hein. On fait de la cuisine et on essaye que les gens repartent avec un grand sourire.
Alors, il y a autre chose dont je voulais parler avec vous, Guillaume, puisque à côté de votre activité pure de restaurateur, depuis quelques temps déjà, vous faites profiter aux téléspectateurs de SBS pendant le Tour de France de vos connaissances et de votre savoir concernant la gastronomie française. Ouais. Et le Tour qui revient prochainement. Et vous aussi, vous revenez prochainement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre participation sur le Tour avec SBS ?
C'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas pu aller en France cette année, bien sûr. Mais on a voyagé, en choisissant des plats régionaux ou des étapes du Tour de France. Et encore une fois, nous pouvons faire de la très bonne cuisine française, des très grands classiques français avec les produits australiens. Il y a un très très bon terroir ici, donc on s'est fait très plaisir.
Et à quoi on peut s'attendre cette année ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés où on garde la même recette qui fonctionne ?
On va se faire plaisir. Je ne veux pas vous dire ce qu'on a fait, mais on s'est fait plaisir avec des grands classiques très hivernaux. Quand nous avons fait vraiment de la cuisine automne-hiver, donc beaucoup de plats qui réchauffent.
Alors, pour revenir au bistrot Guillaume, vous parlez de l'hiver. C'est vrai que la température commence un petit peu à baisser en ce moment. Moi, mes plats français préférés, je crois que c'est des plats qu'on mange plutôt en hiver, justement. Est-ce que vous avez des choses un peu de saison à la carte?
Oui, on suit les saisons. Le menu est dicté par les saisons. Donc là, nous commençons le céleri, les légumes, donc céleri, les topinambours, les artichauts, les stews, donc le bœuf bourguignon, le coq au vin, le cassoulet, ce sont tous les plats que nous faisons maintenant. Et les truffes qui arrivent bientôt de Manjimup en Australie, en Western Australia. Donc, oui, bien sûr. Et en dessert, les poires, une belle tarte aux poires ou une belle poire Belle Hélène.
Oh là là, ouais.
Donc oui, nous suivons les saisons. Donc et l'hiver, bien sûr, ce sont des plats qui réchauffent.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Guillaume.
Grand plaisir.
Bon anniversaire à vous.
Merci, je dirai à tout le monde.
Et à bientôt sur SBS pendant le Tour de France. Merci encore, Guillaume Brahimi.
Avec plaisir. Ciao.
Ciao.
Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench.
Un rappel que les élections consulaires ont lieu en ce moment en Australie. Pour ceux et celles qui habitent à Melbourne dans le lockdown, vous pouvez consulter le site du consulat de France et obtenir une attestation pour aller voter. Il ne vous reste que quelques heures. Je passe maintenant l'antenne à mon collègue Grégory Pless pour la suite sur ces élections consulaires en Australie.
Pour voter, il faut être majeur et inscrit sur les registres du consulat de France. Le 30 mai, ce sera le jour officiel de l'élection, celui où pour voter, il faudra se déplacer physiquement pour mettre un bulletin dans l'urne. Alors, ces élections, elles permettent donc d'élire des conseillers consulaires. Ils sont les représentants pour une durée de 6 ans de la communauté française en Australie, mais donc aussi à Fidji et en Papouasie. Et ils servent également de relais à cette communauté auprès des autorités officielles, le consulat notamment, l'ambassade, mais aussi la députée de la circonscription. En revanche, comme leur nom l'indique, ils ne sont que des conseillers et n'ont donc pas de pouvoir décisionnaire. Ils ne disposent pas non plus d'un budget, contrairement par exemple au conseil municipal d'une commune. Pour ce qui est des candidats, chez nous, 5 listes ont été déposées. Ensemble citoyen et solidaire, qui est soutenu par Europe Écologie Les Verts, Indépendance, Expérience et Proximité, dont la tête de liste est encartée chez les Républicains, la liste Solidarité en Australie, c'est la liste soutenue par le parti présidentiel En Marche. La liste Ensemble maintenant est-elle proche du MoDem, parti centriste allié en France à En Marche? Et enfin, la liste Alliance solidaire des Français de l'étranger, une association dont la présidente, la sénatrice Evelyne Renaud-Garabédian, est-elle aussi rattachée en France au groupe Les Républicains?
Et voilà, il ne reste encore que quelques heures pour aller voter en Australie. 13h57 et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à partir de 13h sur les ondes SBS French. Très belle fin d'après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench.